L'invité de la rédaction, Valérie Vial.
Mon invité de la rédaction aujourd'hui est Bella Assil Beltaïef, la vice-présidente de l'amitié judéo-musulmane d'Alsace-Lorraine, la déclinaison en région de l'association La JMF de France, dont le président, le rabbin Michel Serfati. Il œuvre depuis plusieurs années déjà, depuis 2008 précisément. Alors Bella Assil, bonjour.
Bonjour à vous et je vous remercie de m'avoir convié aujourd'hui pour présenter non seulement l'association, en parler, mais également parler des faits moroses et catastrophiques qui se sont donc passés.
Oui, c'est ça. Alors, vous venez nous voir aujourd'hui dans nos studios parce que vous aviez envie, vous nous avez appelé pour ça, vous aviez envie de réagir après l'agression violente du mari d'une candidate aux législatives, Audrey Rosenhaft, qui dit, donc son mari, qui dit avoir reçu une insulte antisémite, sale juif, précisément, alors qu'il collait des affiches. Et évidemment, après, on connaît les faits tragiques et malheureux qui se sont passé, où il a été victime de violents coups qui l'ont mené jusqu'à l'hôpital. Je ne sais pas, je ne peux pas donner des nouvelles à nos auditeurs si aujourd'hui il est sorti de l'hôpital ou non. Alors, pour quelles raisons vous aviez envie, vous, de réagir après cette agression qu'on n'a pas qualifiée pour l'instant d'antisémite, hein, mais vous aviez quand même envie, vous, de réagir en tant que vice-présidente et en tant aussi que porte-parole ici en région de l'association judéo-musulmane de France?
Alors avant tout, avant de parler et pouvoir développer éventuellement le fruit de notre travail, je cherchais à avant tout souhaiter bon courage au mari de Madame Rosenhaft et bon courage également à elle-même qui a fait un travail honorable. Alors on peut très bien ne pas être d'accord avec un parti politique quelconque, mais ça n'empêche pas qu'il faut avant tout respecter les avis des autres. C'est la base de la tolérance. Et donc je lui souhaite plein de bon courage et j'espère qu'il va se relever très très vite. Et j'espère que ses séquelles ne seront pas... mental, et quand je dis mental, je ne parle pas que pour le cerveau, je parle pour l'esprit également, parce qu'on peut être très très traumatisé de ce genre d'expérience. J'espère qu'il reviendra surtout au quartier d'Haute-Pierre, que prochainement il aura également l'occasion de refaire la même action, mais cette fois-ci sans être agressé. Il a le droit de venir à Haute-Pierre, c'est un quartier français, c'est un quartier qui appartient à la République, ça n'appartient pas à un groupe de personnes, donc on ne peut pas s'approprier un territoire quelconque et se dire que personne n'a le droit d'y accéder. Donc moi-même, je l'invite fortement lorsqu'il se rétablira et lorsqu'il se sentira meilleur, de revenir sur le quartier d'Haute-Pierre. Ça sera non seulement une action symbolique, mais également marquante pour justement souligner ces faits-là et dire que on peut en revenir dans ces quartiers-là et on peut mener son action sans être interrompu.
Vous, c'est un quartier que vous connaissez bien, Haute-Pierre. Vous y avez grandi, vous y avez mené la première partie de votre scolarité, hein, jusqu'à vos études qui vous mèneront à l'étranger. Vous êtes diplômé d'une grande école d'Oxford, hein, vous êtes parti. Donc c'est un quartier que vous connaissez, que vous défendez. En revanche, vous dénoncez également ces faits-là, ces groupuscules. Selon vous, c'est qui ces jeunes sans foi ni loi? Parce que là, c'est quand même grave. Ce sont des jeunes qui ont voulu donner la mort pour... alors, je ne sais pas si pour des raisons politiques, je ne suis même pas sûre que ça aille jusque-là, mais pour des... On va dire une sorte de violence gratuite, donner la mort par jeu, par défi.
Alors, pour répondre à votre question, bien entendu, je suis née donc à l'hôpital de Strasbourg, civil, mais j'ai grandi à Haute-Pierre. Donc, c'est un quartier qui m'a défini oui et non. Alors, quand on dit le mot quartier, banlieue, alors directement, voilà, on a des idées qui nous sortent en tête, on a des images qui nous sortent en tête.
Les voitures brûlées, le nouvel an, etc.
Voilà. Oui. Et c'est tout à fait normal, c'est parce que ces choses-là existent. En revanche, le quartier d'Haute-Pierre, c'est aussi des petites fêtes organisées par les écoles. C'est également des mamans qui cuisinent différents plats culturels et qui sont là pour présenter donc, leur pays d'origine tout en essayant d'assimiler leurs enfants à la société française. C'est également faire du jardinage en communauté. C'est également voir notre voisine d'une origine tout à fait différente, mais qui reste tout de même française, promener son chien dès le bon matin et lui dire « Bonjour madame, est-ce que vous allez bien ?» C'est récupérer son courrier, discuter avec le facteur. Donc c'est aussi tout ça. Donc je ne veux pas que l'on stigmatise le quartier pour autant, bien que ça soit très très difficile, et je peux le concevoir. C'est assez compliqué de se dire « Oui, mais bon, parce que ce sont des images qui ressortent très 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 souvent, et ce sont des faits qui ressortent très 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 souvent. Mais le bon et le mal existent dans toutes les communautés et aucune communauté n'est parfaite. Et bien que la situation soit morose et elle rend une fois de plus légitime notre combat en fait au sein de ces environnements qu'il ne faut pas laisser au dépourvu. Et on parle là d'esprit formaté par quels que soient les facteurs environnementaux. Il ne faut pas faire appel à la guerre, mais au dialogue. Et alors, je peux comprendre que en fait cette notion de dialogue puisse éventuellement lasser certains au vu de la hausse de violence. Mais rappelons-le, il s'agit de territoires français occupés par de jeunes français. Et si une sévérité se doit d'exister, c'est celle d'une maman républicaine auprès de ses enfants. Et c'est certainement pas en délaissant des jeunes se noyer dans des stéréotypes que la situation s'améliorera. Alors il faut donner un rôle de responsabilité à ces derniers qui légitimera leur existence. Par ceci, j'entends bien leur donner un rôle au sein de la société pour briser toute aliénation qui motive cette haine. Je vais rappeler le grand Voltaire, donc, qui disait dans une lettre datant du 6 février 1770, adressée à l'abbé Le Riche en ces termes, « Monsieur l'abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire. » Je le rappelle, bien que cette citation soit une apocryphe, elle s'adapte à toutes ces circonstances lorsqu'il s'agit de tolérance. Et c'est avant tout le travail qui est mené par monsieur le rabbin Michel Sarfati, oui, qui depuis de très très longues années continue à avoir ce travail de proximité qu'on voit pas partout en fait. Donc c'est quelque chose qui est assez exceptionnel. Monsieur Michel Sarfati est un homme de terrain, c'est-à-dire qu'il se rend dans les quartiers, c'est-à-dire qu'il ne va pas mettre un costard, prendre un discours et dire « je vais faire, je vais aider ». Il va à l'encontre de ces gens-là et lorsqu'on va sur ses réseaux sociaux, on voit très très souvent qu'il est accompagné de ces jeunes-là. Et donc lui n'a pas peur du dialogue. Et moi j'invite tout le monde à prendre part du dialogue. Ces gens-là restent des êtres humains. Il faut, quel que soit le moyen qu'il faut employer, dialoguer avec ces gens-là. Alors bien sûr, il ne faut pas s'attendre à une phrase bien développée, etc. Parce que, rappelons-le, certaines de ces personnes viennent de milieux défavorisés, mais ça n'empêchera pas de faire avancer les choses.
Donc, on le sent, hein, vous avez, vous, envie, on va dire, de relever les manches, d'y aller dans le Cambuis. C'est votre quartier. Alors là, on parle du quartier d'Haute-Pierre. On pourrait parler du quartier de Cronenbourg, de la Méno, de l'Elzo. Il y a plein de quartiers qu'on va dire « populaires », entre guillemets. Et on le sait, les choses se passent plutôt bien. La Méno, d'ailleurs, est souvent un exemple en matière d'interreligieux et de cohésion sociale. Ça se passe bien. Il y a encore eu un repas de rupture du jeûne du Ramadan à la synagogue de la Méno. Oui. Vous, c'est ce que vous avez envie de... C'est pas quelque chose qui vous fait peur, vous êtes une toute jeune femme, d'aller à Haute-Pierre, aller essayer de rencontrer, comme le font certains autres, mais qui ont peut-être un certain âge. Je pense à Latifa, la maman d'Imad, ou effectivement au rabbin Michel Sarfati. Ce sont des gens qui ont du bagage et qui vont trouver peut-être les bons mots. Vous vous sentez prête, vous, à y aller à la rencontre de ces jeunes ?
Alors, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Après, on a la double question de « oui, je suis une femme » et « oui, en tant qu'être humain, je peux avoir peur ». Alors, je peux avoir peur dans toutes les circonstances. De la même manière que je peux avoir peur de rentrer dans un village qui est submergé par des idées très extrémistes. De la même manière que je peux également avoir peur, dans mon propre quartier, d'engager ces actions. Mais maintenant, est-ce qu'on va se limiter à la peur ? Si on se limite à la peur dans chaque action qu'on mène, on n'ira nulle part. Donc il faut prendre justement cette relève-là et de se dire « assez ». Il faut reprendre les choses en main, il faut aller vers ces personnes-là et leur parler. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a commencé à faire ici en région d'Alsace-Lorraine. On a accroché des expositions pour faire connaître la religion judaïque et également ce qu'est la religion musulmane, parce que je le rappelle, hein, ce n'est pas parce que ces gens-là sont parfois de confession musulmane qu'ils connaissent pour autant leur religion.
Vous combattez, vous, l'extrémisme également?
Exactement, tout à fait. Et puis l'extrémisme n'a pas sa place au sein de l'islam. Donc nous, ce que nous faisons, c'est un double combat. Donc, on combat autant aux côtés de la communauté juive que de la communauté musulmane. Et donc, pour nous, c'est une plaie d'avoir des personnes qui persistent. Et ils sont pleins, je peux vous assurer. Quand je dis ils sont pleins, ce sont des personnes, d'ailleurs, très intelligentes, qui font ce travail machiavélique dans l'ombre. Et donc, nous n'avons pas peur, nous ne nous cachons pas. Nous faisons ce travail en plein jour. Et nous sommes très, très fiers de continuer. Et nous espérons de tout cœur que cela va mener à nos objectifs. Mais il faut commencer par la jeunesse. C'est-à-dire qu'on a beau dire des discours devant toute personne autour de nous de tout âge, c'est très très bien. Mais si on ne s'occupe pas des plus jeunes pousses de la société, alors on n'ira nulle part. Donc on commence par les enfants, on leur explique, on leur propose des sorties immersives donc pour découvrir des lieux de culte. Et au final, ça résout pas mal de questions pas mal de préjugés, pas mal de stéréotypes qui, je le rappelle, est encore un de nos travaux essentiels, combattre les préjugés, combattre les stéréotypes. Et c'est quelque chose qui est non seulement fantastique, ça crée des amitiés, parce que l'amitié, c'est quelque chose très, c'est une valeur que nous valorons énormément au sein de notre donc, organisation, au sein de notre de l'amitié judéo-musulmane.
Vous le disiez, des actions auprès des plus jeunes, là, dans les cas, puisque c'est pour la raison pour laquelle vous êtes venu nous voir après l'agression du mari de la candidate, alors qu'il collait des affiches, c'était des personnes qui circulaient en scooter, donc forcément des gens plus âgés. Il y a un moment où ce travail de médiation est peine perdue, j'allais dire. Le mot est un petit peu difficile, mais ça devient compliqué d'entrer en communication avec ces jeunes qui se sont un peu élevés entre eux, et puis à celui qui fera l'action la plus, on va dire, la moins... je fais très attention à chaque mot que j'utilise parce qu'on est sur un sujet très sensible.
Tout à fait.
Mais à l'action la plus valeureuse pour eux, mais la moins valeureuse aux yeux de la société, on va dire ça.
Alors effectivement, c'est une question très pertinente que vous posez là. Parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on ne s'adresse pas de la même manière à un enfant de 5 ans et un adolescent de 17 ans qui fait sa crise et puis qui ne veut pas ranger sa chambre. Un petit enfant, on va lui expliquer le pourquoi, le comment, par quoi il faut faire, par quoi il faut commencer. Un adolescent, on ne va pas s'adresser à lui de la même manière. On va peut-être éventuellement comprendre ses émotions. On va développer ce qui cache derrière cette frustration-là. Et alors, encore une nouvelle fois, c'est pour ça que j'encourage le dialogue. Parce que, bien sûr, il faut avant tout des professionnels, donc des psychologues, etc., qui existent déjà, des assistantes sociales, donc toutes ces fonctions qui sont très, très importantes au sein de notre société. Mais le dialogue, c'est quelque chose que n'importe qui peut engager, voyez-vous. Vous pouvez le faire, vous. Vous voyez un jeune qui fait n'importe quoi, puis vous voyez que c'est n'importe quoi et il faut absolument réagir. Donc vous lui dites « Mais pourquoi tu fais ça ?» Donc vous commencez par le « pourquoi ». Vous commencez votre question par le mot « pourquoi ». Et alors le « pourquoi » va vous expliquer le « comment ». Et alors à partir de là, vous avez votre réponse sur l'action qui a été menée par la personne en face de vous. Vous voyez, il ne faut pas déshumaniser ces gens-là. Donc c'est une des manières, en fait, de continue cet engagement-là. Maintenant, si on se dit que oui, effectivement, ces gens-là, il faut les délaisser, c'est peine perdue, je ne suis pas d'accord. Donc, c'est pour ça que j'insiste sur la maman républicaine qui protège ses enfants, parce que ce sont des Français. Alors oui, ils étaient sur des scooters, et ce qu'ils ont fait, c'est démoniaque. Je le qualifie de démoniaque. Mais est-ce que je dirais que ce sont des démons ? Je dirais que ce sont des personnes qui ont été prises par le mal, et donc sur le coup, qui ont fait des choses. Il faut leur poser la question, êtes-vous conscient de ce que vous avez fait ? Savez-vous que vous n'avez non seulement blessé cette personne qui s'est retrouvée sur le sol, vous avez également fait du mal à sa famille, c'est-à-dire que c'est un papa, Liron est un papa. Il a des enfants derrière, il a une famille derrière qui était choquée, traumatisée par ce fait-là. Vont-ils même être conscients de ce qu'ils ont fait ? Vous voyez ? Et c'est pour ça que je reviens sur le terme antidémocratique. Est-ce qu'ils ont même la notion du civisme ? Voilà. Et c'est assez triste, mais ces minorités-là doivent être corrigées. Et moi, j'encourage justement ces actions-là qui doivent être menées à leur encontre, mais pas non plus d'une manière qui va laisser les choses dégénérer. Voilà.
Bella Assil, alors ce sera ma dernière question et ce sera plus personnel. Vous, déjà, votre formation, hein, parce qu'on sent que vous êtes très investie et que vous maîtrisez ce sujet. Donc, votre formation et votre motivation à vous être engagée au sein de l'association de l'AJMAL ici en Alsace et à Strasbourg plus particulièrement.
Alors, c'est très très simple. Je pense que ça part de mon éducation. Depuis très très jeune, nous avions toujours eu des discussions au sein de ma famille lorsque nous sortons en pique-nique, en promenade, peu importe. Et du coup, ça mène toujours vers ce que, à nouveau, j'apporte, le dialogue. Et j'ai la correction très très souvent, même encore maintenant, hein, quand je me trompe sur quelque chose, quand il y a un préjugé, quand j'ai un stéréotype, je reste un être humain et j'ai des idées faussées comme tout le monde, comme vous, comme monsieur qui est présent également avec moi. Mais c'est humain et on apprend à travers ces expériences, on apprend à travers les personnes qui nous entourent, et notamment cette personne qui a toujours été derrière moi, elles sont d'ailleurs deux, mon papa et ma maman, donc mes parents, qui sont issus de l'immigration, donc qui sont des personnes qui sont restées rester sur les bases de l'éducation qui a été apportée par leurs parents à nouveau. Et donc, ce sont ces transmissions de valeurs qui font qu'aujourd'hui, je reste dans un engagement où je veux combattre les préjugés, le stéréotype, mais aussi le mal envers les autres communautés. Je ne suis pas juive, mais ça n'empêchera pas que je me battrai jusqu'au bout pour qu'aucun juif ne puisse se faire agresser lorsqu'il rentre dans un quartier. Il y a quelques années, les juifs vivaient aussi dans ces quartiers-là. Et alors, moi, je sais que mon papa est né et a grandi donc dans une communauté remplie de personnes juives. Et puis lui, il allait à l'école avec eux et il prenait le goûter avec eux, etc. Et il n'y avait jamais cette notion de violence qui était prononcée. Et si jamais elle l'était, alors on parlait directement du problème. Aujourd'hui, je pense que dans les quartiers, on n'en parle pas. C'est quelque chose qui est banalisé. C'est une personne comme une autre. Mais non, c'est une communauté qu'il faut respecter, tout comme la communauté musulmane qui doit être respectée, tout comme la communauté chrétienne, tout comme la communauté laïque, les communautés telles qu'elles soient, nous sommes une nation, nous devons rester unis dans le respect, dans la tolérance et dans l'amour de la République avant tout. Donc voilà, mon engagement, il sera toujours soutenu par le fait que j'encourage l'humanité et je resterai en tout cas, à mes propres yeux, toujours une personne humaine. C'est quelque chose de très très important pour moi, voilà.
J'allais dire, c'est presque le mot de la fin, mais vous n'avez pas répondu à ma toute première question qui concernait votre formation et vos études.
Alors effectivement, moi j'ai étudié les relations internationales et la politique. Alors je vous explique un peu brièvement mon parcours. J'étais au lycée Marcel Rudloff, donc à Strasbourg.
À Strasbourg-Haute-Pierre.
Strasbourg-Haute-Pierre, tout à fait. Ce qui est assez drôle parce que j'ai commencé déjà dès lors à connaître deux mondes différents. Donc il faut savoir que le lycée Haute-Pierre accueille non seulement des personnes donc, issues voilà, des villages, des patelins, mais on a également des personnes qui viennent donc, des quartiers. Donc cette...
voilà, une belle mixité en général,
belle
ça
mixité,
peut fonctionner, oui.
Voilà, une belle mixité. Donc j'ai étudié un bac littéraire, donc voilà. Et ensuite, j'ai décidé d'aller en Angleterre pour la simple et unique raison que je maîtrisais déjà l'anglais. Donc je voulais quelque chose d'un peu plus poussé. Je ne voulais pas me limiter que, voilà, au fait que voilà, je connaisse le français et puis je reste ici dans mon pays, bien que j'adore mon pays. Ça ne veut absolument rien dire du tout. Et alors, ça m'a poussée également à voir comment ça se passe autre part. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a les mêmes problèmes dans la société que voilà au Royaume-Uni, etc. Et au final, j'ai pu constater qu'il y a une belle cohésion sociale et ça m'a donné une belle gifle. Et alors, bien sûr, le racisme et la discrimination existent partout, on en trouvera partout. Mais j'ai vu que les choses fonctionnaient très très bien. Et alors, je ne sais pas si elle va m'entendre, Cécilia. Amie juive avec qui j'ai étudié à Oxford, avec qui j'ai vécu de très très belles années d'étudiante et qui est aussi d'Alsace. Donc voilà, Cécilia, si tu m'entends. Mais voilà, le modèle en tout cas sociétal est juste exceptionnel. Moi, la raison pour laquelle j'ai étudié les relations internationales et la politique, c'est avant tout par passion de l'histoire, par passion de comprendre les relations humaines entre les États souverains, etc. Est-ce qu'aujourd'hui ça m'a aidé à développer voilà, mes discours ou voilà, mais on va dire ma manière de m'exprimer? Je ne pense pas parce que je m'exprime en français et pas en anglais. Donc, mais je pense avant tout qu'une bonne volonté de faire les choses bien comme elle se doit voilà, encourage avant tout une personne à avancer dans son chemin.
Voilà. Bella Hassil, merci infiniment. Je rappelle, vous êtes vice-présidente de l'Amitié judéo-musulmane d'Alsace-Lorraine. C'est la déclinaison en région de l'association la JMF, bien connue, et dont le président est Michel Serfati, qu'on a déjà eu également ici sur nos ondes. Merci beaucoup pour cette interview déjà, et puis pour votre engagement, parce que c'est toujours bien la jeunesse qui s'engage et qui dit des choses et qui va franchement, donc en tous les cas, on vous apporte tout notre soutien. Merci à vous.
Je vous remercie infiniment.
L'invité de la rédaction, Valérie Vial.